Merci pour ce temps de louange qui nous parle au cœur, qui va directement au cœur. C'est, en plus d'être bien chanté et bien joué, merci frères et sœurs pour cette performance, on peut dire ça comme ça, mais surtout les paroles qui rentrent dans le cœur, qui nous fait glorifier un Dieu qui est au-dessus de nous. Et cette connexion qu'on a avec Dieu, c'est fantastique. C'est un privilège immense, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et ce cadeau-là se perpétue dans l'éternité. Bien, nous sommes à la dernière partie du chapitre 7 de 1 Corinthiens. J'ai pas de PowerPoint cette semaine. J'ai pas de problème technique, c'est des problèmes au niveau de la pensée, là. Mais le titre de cette dernière partie de 1 Corinthiens 7, je l'ai intitulé « J'aime mon célibat ». J'aimerais qu'on parte en lisant la parole de Dieu, 1 Corinthiens au chapitre 7, et à partir du verset 25 jusqu'au verset 40, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 7, 25. « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte et de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Dans la dernière partie où Paul traite du sujet de l'état civil d'un croyant, il place en évidence sa préférence sur le célibat. Il exprime même plus ouvertement le pourquoi de son choix. Il précise au départ qu'il ne veut pas ordonner le choix des jeunes gens, filles ou garçons. Ici, il est question de filles, mais c'est plus filles et garçons. Il n'y a pas de différence trop. Paul émet un conseil appuyé sur la miséricorde du Seigneur, qui lui permettent d'expérimenter avec fidélité l'opinion dans son ministère. Comme dans le verset 12 qu'on a lu il y a deux semaines, je crois, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Okay? C'est le même principe. Il va donner son avis, il va donner sa position sur ce qu'il entend par célibat et mariage. Il ne veut pas faire de son enseignement un ordre, mais il veut faire une prise de conscience sur la question de notre état civil. Paul favorise le célibat pour 4 raisons. Et ces raisons-là ne sont pas d'ordre spirituel. Il n'y a rien de spirituel dans le choix de notre état civil. Je l'ai déjà dit, notre spiritualité ne dépend pas de notre état civil, mais dépend de notre niveau de consécration, de sanctification, de notre désir d'obéir à la volonté de Dieu. On a, à travers nous, beaucoup d'hommes et de femmes célibataires dévoués à l'œuvre de Dieu, qui ont accompli la volonté de Dieu et qui ont dirigé leurs pulsions dans le service pour le Seigneur. Un exemple proche de nous, Jackie Hainaut, qu'on a vu récemment. Un peu plus loin, William McDonald. Je vous mentionne lui parce que je l'ai connu. George Miller. C'est extraordinaire de savoir que cet homme-là a créé soutenu beaucoup d'orphelins, lui qui n'était même pas marié. John Nelson Darby, lequel nous avons la version Darby de la parole de Dieu. Corrie ten Boom, qui était aussi vraiment une femme dévouée à l'œuvre de Dieu. John Stott, et je pourrais en nommer beaucoup. Je pourrais aussi nommer des célibataires dans notre assemblée qui sont dévoués à Dieu, mais certainement, je ne veux certainement pas les mettre dans l'embarras. J'ai connu M. McDonald. Il a été mon enseignant pendant 1 an. Et on avait des rapports assez proches. J'étais mangé chez lui et lui chez moi. Il vivait comme un véritable célibataire. Il servait son Dieu et ceux qui l'entouraient de manière très efficace. Ses enfants, c'était ses livres. Et il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait des pans de murs d'enfants. Il y avait plus d'enfants que n'importe qui aurait pu avoir d'enfants. Il y avait beaucoup plus de livres que n'importe qui aurait pu avoir d'enfants, je veux dire. Il y a aussi Mme Hainaut. Sa préoccupation première n'était pas de rechercher un compagnon de vie. Sa préoccupation première, il est clair, c'était son ministère qui prenait la première place. Elle désirait surtout servir son Dieu que de chercher un compagnon de vie. Ces gens que j'ai mentionnés et bien d'autres ont trouvé leur satisfaction dans le service pour Dieu et pour leur prochain, et parce qu'ils étaient appelés, ils ont emmené le verset de Matthieu 22, 37 à un autre niveau. Matthieu 27 dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les personnes mariées peuvent lire le même verset, mais ils ne le comprendront pas, ils ne l'appliqueront pas de la même manière qu'un célibataire. Il va y avoir une différence. La première raison pour laquelle Paul se mentionne qu'il est en faveur du célibat, ce sont les temps difficiles. Les temps difficiles. Certaines versions, certains commentaires vont dire que Paul prend la position du chrétien en rapport avec le système de ce monde et la charge imposée aux chrétiens est plus dure à vivre. Et c'est encore pire si l'homme et la femme sont liés ensemble, sans compter les enfants. L'autre possibilité vient de M. Darby, dans sa version, où il, au lieu de dire « temps difficile », il mentionne « nécessité présente », qui nous amène à un temps particulier. Paul a écrit cette lettre de 1 Corinthiens en l'an 55 après Jésus-Christ. L'an 55 après Jésus-Christ, c'est le temps où ce que l'empereur Néron est en fonction. Et l'empereur Néron, qui est un despote particulièrement cruel envers les chrétiens, des tortures que je n'oserais pas mentionner ici, que j'ai lues à quelque part, mais c'est affreux. Les frissons me passaient dans le dos quand je lisais ça. À savoir que c'est vrai, ce n'est pas, un roman, là. Des grandes persécutions ont fait l'histoire. Certainement que dans ces situations-là, un climat d'incertitude devait régner dans le cœur des chrétiens. Cette recrudescence de la violence rendait l'attachement à une autre personne encore plus difficile à vivre. On ne vit pas au même temps, on n'est pas dans les mêmes barèmes. Je ne crois pas que personne torture les chrétiens, du moins à Trois-Rivières. Okay? Ce côté ici de l'Atlantique est au nord. Mais si on prend l'ensemble de la terre, si on prend l'ensemble de la population, on ne pourrait pas dire la même chose. Beaucoup de persécutions qui existent au niveau des chrétiens, on en est conscient. Lorsqu'on passe la voie des martyrs, on réalise quelque part que être chrétien est aussi quelque chose de difficile à vivre. Dans certaines rencontres que je fais avec les gens me faisaient part qu'ils ne voyaient pas un avenir rose et tranquille, les deux pieds dans le sable et ainsi de suite. Non. Ils voyaient plutôt quelque chose de plus difficile à vivre dans le futur. Ils étaient inquiets de la situation actuelle. Et si vous prenez la parole, que vous regardez dans le terme des derniers temps, vous allez voir que le péché il continue de progresser et il continue aussi à toucher aux chrétiens, ce qui est une grande difficulté. Paul ne dit pas qu'à cause de la situation problématique qu'ils vivent, personne ne devrait se marier, surtout si vous êtes appelé à être marié. Mais lorsqu'il dit au verset 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Des tribulations dans la chair. Maintenant, imaginez que Paul soit marié. Okay? Comment auraient vécu Paul et son épouse? Parce que Paul devait être un homme passionné. Et lorsqu'il serait marié, il aurait été aussi passionné pour son épouse. Imaginez maintenant que Paul et son épouse, comment est-ce qu'ils auraient vécu à travers les coups de fouet, à travers la prison, à travers d'être chassés des villes violemment, à travers de descendre des murailles des villes dans un panier d'osier. Et quelle pression existerait dans le cœur de Paul s'il était marié. Sans aller aussi loin, il est vrai que les personnes mariées s'accompagnent de tribulations, d'épreuves, de remises en question, des responsabilités. Des responsabilités plus pesantes et plus présentes. Ça fait longtemps que je suis marié, ça fait un bout de temps, là. Je vous dis pas le nombre d'années, j'ai peur de faire l'erreur puis de coucher sur le divan ce soir. Mais la vie de célibataire, je suis plus ou moins au courant de ça. Mais j'ai été m'informer des personnes qui ont été récemment mariées, qui ont vécu une vie de célibataire ou qui sont encore célibataires, mais surtout ceux qui sont mariés actuellement et qui ont vécu des temps de célibataire assez récents. Et lorsqu'on parlait des responsabilités qu'ils avaient comme personnes mariées, c'était complètement différent. L'épouse qui est à côté de moi, j'en suis responsable. C'est comme quelque chose que je dois faire attention maintenant. C'est quelque chose qui prend une petite place qui était peut-être réservé à Dieu avant. Et c'est dans ce sens-là que Paul parle. Même les plus grandes réussites matrimoniales, la vie de couple, rencontre des écueils, des difficultés. Bien sûr, ceux qui sont mariés, ils doivent passer au travers, faisant les efforts nécessaires pour respecter leurs vœux. Vous n'avez pas le choix. Vous devez passer au travers. C'est tout. Mais Dieu est gracieux, il donne le pouvoir de le faire. Mais pour celui et celle qui se posent des questions sur le célibat ou sur le mariage, selon Paul, la préférence va au célibat. Deuxième raison pour que Paul favorise le célibat, c'est que le temps est court. Il mentionne, et lorsque Paul mentionne dans Éphésiens, au chapitre 5, au verset 15 et 16, il dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce qui rend le temps si court et si mauvais? La vision mondaine du temps, c'est une autre réalité, ça. Ils n'ont pas la même vision que nous, qu'un chrétien. Pour le monde, les choses arrivent les unes après les autres et se perpétuent, ça va être comme ça jusqu'à... On ne sait pas. Mais les choses se suivent. Puis quand je vais mourir, ben, mes enfants vont prendre la suite. Ou si je n'ai pas d'enfants, le monde va continuer. Pour certains, c'est la réincarnation. Pour d'autres, ben, je ne sais pas. Mais la vision du chrétien n'est pas la même. Elle ne devrait pas être la même. À tous les jours, à tous les matins, je n'attends pas la mort. J'attends le retour de mon Seigneur. J'attends le retour de Christ. Et même lorsque je serai mort, j'attendrai encore le retour du Seigneur, mais pas tout à fait à la même place. Mais j'attendrai encore le retour du Seigneur. Le temps est court, car nous savons qu'il peut venir à tous les jours. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit, que ce serait une bonne journée pour qu'il vienne. Hein? Que ce serait plaisant aujourd'hui s'il venait nous chercher. Surtout que je n'arrivais pas à faire ma prédication. Mais il a dit non, tu vas devoir la faire. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à ce que le Seigneur revienne puis qu'il m'emmène avec lui? Est-ce que mes actions aujourd'hui tiennent compte de ce que Dieu me demande de ce côté-ci de l'éternité? Est-ce que je suis clair dans ça? Ou si je laisse passer beaucoup d'occasions. On peut revisiter l'enseignement de Guy Bourassa la semaine passée. Il disait, la vie d'un homme évolue par étapes. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'il disait. Il évolue par étapes, ça m'a marqué. Dans le ventre de sa mère, le bébé se prépare à sa naissance. Et il, dépendant de sa mère pour grandir, il grandit tranquillement, il se forme physiquement. Et il se met prêt. Et lorsque le moment vient, lorsque le temps arrive, il vient au monde. Voilà, une étape de passé. Il passe à une autre étape. Il prépare l'homme, comme il se prépare à sa naissance, l'homme devrait se préparer après sa mort. Parce que ce n'est pas vrai qu'après la mort, il n'y a plus rien, c'est le néant. Il y a quelque chose. Maintenant, l'homme décide. L'homme se prépare après sa mort. Parfois, il ignore le Dieu créateur de toutes choses sur la terre. Il ne veut rien savoir de lui. Cet homme se prépare à vivre malheureusement dans l'éternité sans Dieu, sans amour. Parce que c'est ici qu'on prépare l'éternité, qu'on prépare cette prochaine étape qu'on va avoir après la mort. Mais pour celui qui décide que Dieu fait partie de sa vie, maintenant, sa préparation est différente complètement. Notre éternité vient de notre décision sur terre. La qualité de notre éternité dépend de ce que nous allons décider ici. Nous décidons d'être avec Dieu et la préparation se fait ici, sur terre, tous les jours. Et c'est dans cela que Paul dit que le temps est court. On n'a plus grand temps pour se préparer. Dans ce temps écourté, et ça devient important de bien réfléchir face aux décisions. Le temps est court. Je ne dois pas faire n'importe quoi. Je ne dois pas être comme une poule sans tête qui court à gauche et à droite. Je dois être réfléchi. Je dois méditer sur ce que je dois faire vraiment et prendre les bonnes décisions. Je dois prendre avantage des situations. Je dois saisir l'opportunité de servir Christ de la bonne manière et au moment favorable. C'est quoi ce moment favorable-là? C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui, c'est ce matin et les heures qui vont suivre. Lorsque le temps est court, trouver les priorités, c'est majeur, c'est important. Parce que le temps ne revient pas. OK? C'est clair que ce matin, si j'ai manqué l'occasion, j'ai manqué l'occasion. Elle ne reviendra pas, cette occasion-là. Et ce que Paul mentionne dans la suite du texte, au verset 29 jusqu'au verset 31, que je vais lire, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Hé, texte contradictoire, hein? Tu lis ça pour la première fois, tu dis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut bien vouloir dire? C'est quelque chose qui se contredit. Mais ce qu'il exprime dans ce texte-là, c'est le courant de la vie. C'est ce qui se passe à tous les jours. OK? Le mariage, les temps malheureux, les temps heureux, le temps où ce qu'on négocie, le temps où nous utilisons les facilités du monde. Et je ne peux pas comprendre qu'une personne ne le fait pas à tous les jours. Tout le monde, chrétien ou non, le font. Nous faisons ça. Même si ces situations sont des incontournables de la vie, même si on n'est pas capable de s'en échapper, ils ne doivent pas tenir la première place dans le flot de nos pensées et dans le flot de nos actions. Ils sont là, mais pas si importantes que ça. Dans le verset 29b, lorsqu'il dit que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, certainement, l'alliance du mariage doit être respectée. C'est important de respecter cet engagement-là qu'on a pris, et on en a parlé il y a quelque temps encore. Mais le but premier du mariage sera pour que Christ soit honoré, sera pour que son royaume avance. Et le mariage, est tout simplement, c'est un accessoire qui va refléter cet amour-là de Dieu. Le mariage suit dans ses règles, peut être certainement un très grand témoignage. Un moyen harmonieux mis en place par Dieu pour multiplier et bénir la terre. Et il faut voir plus grand que le mariage. Il devient un état qui s'accorde avec ce que je suis. Je suis d'abord et avant tout un enfant de Dieu. Vous savez, être un enfant de Dieu, c'est mon identité. Avant d'être marié, je suis un enfant de Dieu. Et je suis marié. Ou je suis célibataire. Mais ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est d'être un enfant de Dieu. Mon épouse est la personne que j'aime le plus sur la terre. Personne ne peut l'égaler sur cette terre. Mais elle sait elle-même que l'amour que j'ai pour Dieu est plus grand encore. Elle est deuxième. Elle s'accorde avec ça Et moi, je m'accorde avec la même chose de sa part. Et c'est le fait que j'aime Dieu plus qu'elle qui fait en sorte que j'aime mon épouse de la bonne manière. Donc, je comprends ce qu'il dit, que j'ai une femme comme n'en ayant pas. J'ai d'abord Dieu et j'ai mon épouse par la suite. Le verset 30, « Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. » Touche les émotions. Nous vivons des peines et des joies, tous. Nous vivons tous là, des émotions. Des émotions que, s'ils sont mal gérées, font en sorte qu'on s'éloigne de Dieu. Nos peines n'ont rien à comparer aux joies annoncées. Jacques le dit, nous pouvons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Christ lui-même avait le regard sur la joie à venir durant les peines qu'il a vécues sur cette terre. Et cette joie terrestre qui semble nous faire beaucoup de bien, là, c'est le fun d'avoir de la joie dans le cœur. Mais c'est absolument passager. La vraie joie, celle sur laquelle nos yeux devraient être aujourd'hui, c'est celle qui va venir avec le retour de Christ. Voilà la vraie joie. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage aux États-Unis. J'ai passé par la ville de Reno, okay, qui est une ville de casinos. Ce n'est que des casinos et des maisons de jeu. C'est tout le centre-ville qui est énorme, d'ailleurs, là, mais c'est tout des casinos. Et naturellement, où est-ce qu'il y a casino, tout le monde veut attirer la foule, là, et donc ils mettent des lumières partout. Pas des mille lumières, des millions de lumières. Des lumières, il y en avait partout. Puis pas beaucoup de brûlés. Ils entretiennent ça assez bien. Hein? Puis là, tu regardais le monde qui voyageait à travers la lumière. Puis là, waouh, tu disais, waouh, c'est impressionnant. Hein? Il y a beaucoup de lumière. Voici cette joie passagère-là. Parce que quelques jours plus tard, on voyageait en motorisé et puis on a arrêté dans un terrain où c'était des décors absolument fabuleux. C'était de toute beauté. Et la lumière du soleil qui reflétait tout ça, sans mentir, mon épouse et moi, transportés par les émotions, on s'est assis sur un banc et on a pleuré. Tellement c'était beau, tellement c'était grandiose. Vous comprenez la joie? Vous comprenez la vraie joie? Ces lumières-là qui s'éteignent un jour, qui vont finir par ternir, qui vont brûler. Les décors que Dieu nous amène, la joie qu'il nous amène, est beaucoup et de beaucoup supérieure. Donc, les joies, les peines n'ont pas une grande valeur. C'est cette joie-là qui s'en vient avec notre Seigneur qui va avoir toute la valeur. Le principe est le même pour acheter et profiter du monde. Ces choses font partie de la vie parce que Dieu nous l'a laissé. Nous sommes dans le monde afin que l'on soit un témoignage pour sa gloire. C'est pour ça que si on use le monde, que ce soit avec la sagesse de Dieu, qu'on ait la sagesse de Dieu pour user le monde. Quelle valeur ont les choses que nous possédons? Quelle valeur? Je ne dis pas qu'on ne devrait pas avoir de belles choses. C'est complètement autre chose. Là. Si Dieu nous a bénis matériellement et qu'on peut avoir de belles maisons, de belles voitures ou de beaux tout ce que vous désirez, là, okay? On peut mettre bateau et ainsi de suite, là. C'est bien. Tant mieux pour vous autres. Mais un jour, tout cela devra être rendu. Un jour, ça n'aura plus aucune valeur. Rien. Même si ça vaut 10 millions. Zéro. Vous savez, je ne m'attends pas à être reçu par Christ lorsque je serai au ciel, puis qu'ils me disent, « Hey, toi, sur la terre, t'avais une super de belle maison. » Oh, wow, hein? Puis ton char. Wow, qui est beau. Hein? Tu dois être fier. Je pense pas qu'ils me reçoivent de même. Je pense que pour lui, même aujourd'hui, ça n'a aucune valeur. Quelle est la valeur qui va rester au ciel? Quelle est la valeur qui va rester au ciel? Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ça que je veux entendre. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui à vouloir servir Dieu. Ça, on parle de couronne, et ça, ça serait un sujet à en discuter à un moment donné, beaucoup de couronnes. Mais les couronnes sont pour Dieu, et les couronnes vont être mises à ses pieds. Mais j'ai tellement hâte à l'accueil que Christ va me faire. Je ne veux pas manquer mon coup. C'est de valeur, mais je n'ai pas de vie. Hein. Mais que je meurs, je vais me présenter devant mon Dieu, puis ça va être fini. Ou non, ça va commencer. Les biens matériels ont une place, oui, et je suis le premier à vouloir en profiter. Ah, j'ai des désirs quand même, hein? Oui, j'en veux plein de choses, moi aussi. Mais ils ont une place et il faut faire attention à l'importance qu'ils ont dans nos vies. Et c'est ça que Dieu veut dire, c'est ça que Paul veut nous dire à travers ses textes. Le temps est court et chaque occasion que nous manquons de servir Dieu ne revient pas. Le temps passé, c'est un temps manqué. Et il faut partir avec cette occasion-là. On a besoin de la sagesse de Dieu pour racheter le temps, comme le texte nous a dit. Racheter le temps, c'est une expression qui veut dire que nous devons faire en sorte que le temps qui est mis à notre disposition soit profitable. Ça ne veut pas dire nécessairement s'activer. J'ai discuté avec une sœur en rentrant ici, elle a dit, j'ai lu un livre, je suis en train de lire un livre qui m'impressionne beaucoup, ça me fait réfléchir. Cette personne-là travaille. Cette personne-là, elle ne perd pas son temps. Elle mature. Elle se met prêt à servir. Et parfois, c'est ça qu'il faut faire. J'ai juste écouté un peu là, ce matin, je n'ai pas eu le temps de tout écouter ce que notre frère Michel nous parlait sur Exode. Mais il disait que le peuple d'Israël a été pris pendant un an, pas pris, il était stationnaire pendant un an. Juste pour recevoir qu'est-ce que Dieu avait à leur donner. Il était passif, il recevait. Eh bien, c'est un temps béni de Dieu que Dieu nous donne de pouvoir recevoir les choses. Et on grandit, on ne perd pas son temps lorsqu'on reçoit les choses de Dieu. Le célibat pour un temps, pour toute une vie, et le mariage sont des dons de Dieu que chacun doit faire profiter et qui va certainement plaire à Dieu. Lorsque Paul considère l'ensemble de l'œuvre du chrétien, il voit un avantage du célibataire sur les personnes mariées. Parce que si l'on reprend le verset 29, même dans le mariage, nous devons agir comme un célibataire pour l'œuvre de Dieu. Même dans le mariage. Lorsqu'il m'arrive des temps où je suis très occupé, je néglige mon épouse. Je suis obligé, je n'ai pas le choix. Parce que j'ai trop de choses à faire. C'est un choix que j'ai fait. Mais Dieu m'a demandé ça. Naturellement, il y a un équilibre à avoir dans ça. Mais parfois, j'agis comme un célibataire, même dans mon mariage. Les peines, les joies du célibataire ne sont pas multipliées par le nombre de personnes vivant en symbiose avec moi, avec le célibataire, excusez. Les peines et les joies appartiennent au célibataire, et c'est un avantage. Je n'aurai pas la peine que mon épouse vit. Un célibataire n'a pas d'épouse. Les tracas de mon épouse deviennent les miens. Et mes tracas deviennent les tracas de mon épouse. Et c'est un désavantage. Et finalement, le célibataire peut bénéficier d'une certaine simplicité en regard des achats et des possessions. Je vous donne un topo assez rapide là-dessus. Lorsque un célibataire décide d'aller à quelque part, il y a un petit sac grand comme ça, OK? Puis il s'en va avec ça. Lorsqu'un homme marié avec des enfants décide de déménager, ça y prend un char, un truck, un trailer, un ci, un ça. Hein? C'est clair. Les achats et les possessions pour un célibataire, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, ça peut être plus simple. Naturellement, un célibataire qui veut avoir beaucoup de choses, il est capable. Hein? Paul regarde à l'avantage des chrétiens de Corinthe. Il cherche à vivre une vie principalement attachée au Seigneur. C'est ce qu'il cherche à exprimer. Là. La troisième raison, c'est les distractions à l'œuvre de Dieu. Les distractions à l'œuvre de Dieu, ça, c'est légion. Hein? Il y en a. Puis, il n'y en a pas assez encore, on en fait. Du point de vue fonctionnel, le mariage peut être une distraction. Sa description des attachements avec et sans mariage, du verset 32 au verset 34, il dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Il y a une différence, là. Et sa conclusion à cela, au verset 35, « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Mon premier réflexe lorsque je lis ça, ben voyons donc, c'est pas parce que je suis marié que je ne serai pas capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Je suis marié et je suis capable de travailler pour Dieu. Autant qu'un célibataire, c'est quoi cette discrimination-là? Mais en même temps, dans la même pensée, je ne peux pas m'empêcher de voir des décisions, de voir des projets dans le passé qui n'ont pas pu se faire ou qui ont retardé à cause que j'étais marié ou que j'avais une famille. Certains projets qui me popent dans la tête, je me dis, ah ouais, là, ça aurait pu se faire un an avant. Là, hein? Là ça aurait pu se faire. Ça ne s'est pas fait du tout. Là. J'ai eu le goût de le faire, mais bon, mon épouse n'embarquait pas là-dedans. Puis c'est normal, c'est correct. Mais c'est ça le mariage. Parce que j'y étais appelé à être marié. C'est correct. Mais je crois en même temps que les hommes comme Paul, comme M. McDonald ou comme Jackie Henault auraient été distraits de leur ministère, ils n'auraient jamais accompli ce qu'ils ont accompli s'ils avaient été mariés. Je dois insister sur le fait que ce n'est qu'un point de vue fonctionnel. Je ne crois pas qu'un homme marié ou une femme mariée soit moins spirituel qu'un célibataire. Mais au niveau fonctionnel, un homme ou une femme mariée peut être un petit peu moins performant qu'un célibataire dans les possibilités. À la suite de ce texte, Paul amène deux mises en situation en regard avec son enseignement. Il se sent obligé de commenter sa position favorable envers le célibat. Ça se peut-tu qu'il se pense mal interprété? Il répète encore ce qu'il a dit, mais en mise en situation. Il précise. Il reprend son argument avec comme toile de fond la liberté dans les décisions de mariage et de célibat. Il ne veut pas qu'aucune controverse existe. Et il va répéter encore. Et là, il décide de prendre la coutume de ce temps qui voulait que ce soit le père qui permette le mariage ou non. Aujourd'hui, autre temps, autre mère, c'est plus vraiment la manière de faire. Hein? Je pense que la fille qui se marie a quelque chose à dire. D'ailleurs, pas mal plus que le père. Mais j'ai quand même demandé la main de mon épouse à mon beau-père. Il a fallu que je m'arrête à ça. Hein? Naturellement, lui, il a mis une condition au contrat. Là. Tous mes gendres ont demandé la main de mes filles. Et la réponse a été, « Ben oui, puis ramène-la pas. » Je ne sais même plus si ça se fait encore, là, cette demande en mariage-là auprès des pères. De voir les gens qui ont des enfants pour voir si ça se fait encore, ça, des demandes de mariage au père. Je sais que ça avait brassé, moi, quand je l'avais demandé, à cause de circonstances que je n'expliquerai pas. Mais ce qu'on peut voir dans cette mise en situation-là, ce qui est important de regarder, c'est la liberté de choix. Personne ne commet de faute en agissant selon sa conscience. Et si la fille désire se marier, gloire à Dieu. Et si la fille ou le garçon ne désire pas se marier, qu'ils veulent rester célibataires, gloire à Dieu aussi. Mais ce qui est important, c'est que tout se fasse pour Dieu. Je veux être marié pour Dieu. Je veux être célibataire pour Dieu. La dernière raison que Paul émet de l'avantage du célibat, c'est la durée du contrat de mariage. La femme est mariée aussi longtemps que son mari est vivant et vice-versa. Il n'y a pas de divorce dans le plan de Dieu. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si moi, je m'engage à me marier, la seule chose qui va me séparer de mon épouse, c'est la mort. C'est un contrat, hein? C'est un méchant contrat. Je ne voudrais pas signer un contrat comme ça pour mon loyer ou pour n'importe quoi d'autre. Mais c'est important. La seule condition que la personne pourrait se remarier, c'est que son mari meure ou son épouse meure. Et que tout se fasse dans le Seigneur. C'est important de comprendre qu'il faut que tout se fasse dans le Seigneur. Mais Paul ne peut pas s'empêcher de mentionner sa petite préférence. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Ce serait mieux qu'elle ne se remarie pas. Et moi, je me suis engagé avec Hélène, je disais, si jamais tu meurs ou si je n'ai pas l'intention de me remarier. Mais j'avais les doigts croisés comme ça dans le dos, parce que je ne connais pas l'avenir. En conclusion, ce que j'ai pu y voir dans tout cet enseignement-là, c'est que chacun de nous, nous pouvons avoir un cœur pour Dieu. Nous pouvons avoir un cœur dévoué à Dieu, un cœur donné à Dieu. On peut l'avoir. Ce cœur-là que l'on donne à Dieu, il peut être marié. Il peut être célibataire. Il peut être célibataire par obligation ou par conviction. Il peut être veuf. Il peut être veuve. Sous certaines conditions, il peut être, dans ce sens, divorcé, là, s'il n'y a rien d'autre à faire. Je suis contre le divorce. Là. Et tout ce qu'on peut ajouter sur l'état civil, ce cœur-là peut exister. Dieu veut que je sois entièrement à lui, dans l'état que je suis présentement. Et Dieu veut que je sois entièrement à lui, dans l'état qui me destine à être plus tard. Et je suis marié, gloire à Dieu, nous avons accepté tous les deux Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est une bénédiction, vous ne pouvez pas... C'est une vraie bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui vit ça. Mais si un jour, j'en viendrais à être célibataire, pour quelque raison que ce soit, j'aurai le même critère, je devrais servir Dieu où est-ce que je suis, dans l'état que je suis. Je veux lui laisser ce contrôle-là. Je veux que ce soit à lui, ça. Que je sois célibataire, que je sois marié, que je sois veuf, que je sois... C'est à lui. Fais ça, c'est à toi, ça. Je veux que tu fasses ça pour moi, Dieu. Je lui laisse et je vais être content de ce qu'il me donne. Que le Seigneur bénisse les propos.